has the open shot. Cousins. Full hand stand. Look out, ball.
Bogdanovich, 3 seconds. Bogey
for the win.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Sacramento Talk, le podcast de Kings France. À peu près 10 matchs sont passés dans la saison, donc il est temps pour nous de tirer quelques conclusions de ces 10 premiers matchs. On reviendra sur ça voilà, rapidement, 3 points, on reviendra sur les points positifs, les points négatifs, et puis on répondra sur les questions que vous nous avez posées sur Twitter. On commence tout de suite avec les points positifs. Parmi les points positifs, Laurent, on a vu déjà, et c'est beaucoup remarqué tout autour de la Ligue, c'est l'excellent début de saison d'Harrison Barnes, qui en fait porte l'équipe un peu à bout de bras en ce début de saison, vu les petits soucis de Fox sur lesquels on reviendra après. Mais voilà, il a quand même montré un sacré leadership, il est excellent scoreur, il présente de très bons pourcentages. Donc ouais, on avait déjà la saison dernière l'impression qu'Harrison Barnes nous sortait sa meilleure saison en carrière, mais là en fait il est reparti encore plus fort et on se demande si jamais il continue sur ce rythme-là, il peut vraiment vraiment faire une grosse différence dans cette équipe.
Ouais, salut Olive, salut tout le monde. Bah écoute, Barnes est en train de refaire, comme tu l'as bien dit, la même chose que l'année dernière où Fox a été blessé sur une certaine partie de saison, pardon, genre février-mars. Et il avait porté déjà l'équipe sur son dos, peut-être même l'année dernière. Donc, avec Fox, qui, on reviendra dessus après, n'est pas super dans sa saison, enfin, n'a pas encore commencé sa saison complètement, le deuxième leader de l'équipe, c'est clairement Barnes. Et force de constater, c'est qu'il joue à son poste. Il y avait des débats comme quoi il pouvait commencer la saison poste 4. Il joue au poste 3. Il joue magnifiquement bien. Walton avait dit qu'il voulait que Barnes prenne plus de tirs à 3 points parce qu'il est pas maladroit. Et on peut voir sur ce début de saison que, en effet, il a un shoot vraiment, vraiment fiable. Coucou Phoenix. Et ouais, il est, comme tu le disais, l'année dernière, on pensait qu'il avait peut-être fait sa meilleure saison en carrière. Et là, cette année, sur ses 10 premiers matchs, on peut considérer qu'il fait partie, attention au sens large du terme, des meilleurs joueurs de la Ligue. Tant sur le plan personnel et même collectif, parce que faut pas se leurrer, personne ne nous voyait à 5-5 après 10 matchs, 5-6 aujourd'hui après cette malheureuse défaite contre Phoenix. Mais personne ne nous voyait là, et c'est grandement en partie et grâce à Harrison Barnes.
Ouais, et déjà, et pour faire le point un petit peu statistiquement aussi, puisque tu as soulevé le point selon lequel Walton voulait qu'il tire plus de tirs à 3 points, la saison dernière, il en prenait 4,5 en moyenne, et là, il est à 6,5. Et pour un pourcentage de réussite qui est bien meilleur, puisqu'il était à peine à 39%, et là, il est à quasiment 44% de loin. Il était aussi à 16 points. Cette saison, il a 22. Donc, plus 6, il est à 6,6 rebonds. Il est à 8,7, donc plus de rebonds. Il était à 0,7 steals, là il est passé à au-dessus d'un steal. Donc voilà, il augmente quasiment dans tous les compartiments du jeu en fait. Et vraiment c'est le truc. Enfin moi personnellement je l'avais pas vu venir. Je me suis dit Barnes cette saison voilà c'est notre vétéran sûr, il va continuer à apporter, il va faire sa petite contribution et tout. Mais je m'attendais pas à le voir exploser entre guillemets à ce point. Sur le début de saison, on a vu vraiment des pointes. Je crois que dès le premier match de la saison, il plante 36 points. Deux matchs après, il plante un énorme game winner contre Phoenix. Donc voilà, vraiment tout ce qu'il faut d'un leader, en fait.
Après, moi, la question que je me pose, c'est oui, il fait un début de saison monstrueux. Mais, on va revenir après sur le cas d'Aaron Fox. Si D'Aaron Fox revient au niveau qu'il avait la saison dernière, on peut s'attendre à ce que les stats de Barnes redescendent pour le coup.
Oui. Logiquement, il devrait marquer un peu moins. Ouais.
Il serait le second couteau de l'équipe, mais en théorie, là, si aussi on voit autant Harrison Barnes et qu'on le voit autant briller, c'est parce que malheureusement, De'Aaron Fox n'est pas encore dans sa saison. Et on espère qu'il va, il va rentrer très vite dedans. Ça, on en parlera sur les points négatifs. Mais voilà, c'est aussi un concours de circonstances. Et c'est ce qui fait kiffer avec Harrison Barnes. Et depuis qu'il est arrivé aux Kings, avec les multiples blessures qu'on a pu voir dans notre effectif depuis, on va dire, 3 saisons, il a répondu présent à chaque fois qu'il y a eu un pépin sur les joueurs qui sont censés être les top scorers de l'équipe. C'est ce qui fait aussi la force d'un vétéran et d'un leader de vestiaire, même si ce n'est pas forcément un grand leader vocal. C'est ce qui fait que c'est le mec respecté de l'équipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de lui, il répond présent. Et sur ses 10 premiers matchs, je ne vais pas dire niveau All-Star parce qu'on va encore m'insulter. Mais pour le coup, ouais, c'est Harrison Barnes, c'est la calvitie de Durant avec le talent, comme avait dit Alex, ou c'était un truc comme ça, je crois.
Ouais, c'est ça, c'est Harrison Barnes a retrouvé la calvitie, le talent de KD. Ouais, et vraiment, ce que tu dis là, sa capacité à step up quand l'équipe a besoin de lui, on l'a vu vraiment sur ces matchs où parfois l'équipe a vraiment manqué d'adresse à 3 points. Et il se dit, c'est pas le gars, il va continuer à forcer à 3 points et tout. Il va se dire, bon, ok, les tirs, ça rentre pas. Il faut aller chercher les points à l'intérieur. Et c'est ce qu'il fait, quoi. Y a des matchs, en fait, typiquement, du coup, il est allé chercher les tirs, il est cherché les fautes à l'intérieur. Et il provoque 8, 9, 10, 10 fautes. 8, 9, 10 lancers francs, pardon. Et voilà, il va les convertir sur la ligne. Il est hyper fiable au lancers francs. Cette saison, il a 86%. 6,5 lancers francs réussis sur 7,5 tentés par match. Donc c'est un énorme total, hein, 7 lancers francs par match. Donc voilà, c'est cette capacité à se poser, à réfléchir, là où des jeunes joueurs vont plus s'entêter à tirer de loin. Lui, voilà, il va vraiment chercher ses moves de vétéran au poste bas, et vraiment voilà, sa capacité à s'adapter, à bien défendre, est vraiment vraiment plutôt appréciable, quoi.
Aussi parce qu'il a la polyvalence de pouvoir jouer poste 3 et 4. Je parlais tout à l'heure de poste 4 en début de saison parce que dans les pseudo-débats, sachant que, bon, une fois qu'on a compris que Bagley n'était plus dans la rotation, ça partait plus sur un 5 majeur. Fox, Haliburton, Buddy Hield en poste 3, Harrison Barnes en poste 4. Donc, il a cette polyvalence et c'est vrai que, comme tu le dis, quand ça ne rentre pas de loin, bah, il a la polyvalence, il a la capacité, le bagage technique de pouvoir aller jouer poste bas en iso, mettre 2-3 coups de cul, se retourner et se mettre son petit panier. C'est ce qui fait aussi la force de ce joueur. Et comme tu le dis, des joueurs peut-être plus jeunes, et malheureusement Fox en fait partie, à vouloir s'entêter peut-être à shooter trop de loin, et même quand ça ne rentre pas, plutôt que d'aller essayer d'attaquer le panier. Et c'est ce qui fait sa grande force.
Autre joueur qui a cartonné sur début de saison et qu'on s'attendait à voir titulaire, bah c'est Buddy Hield. Buddy Hield qui est impressionnant, en fait. C'est-à-dire que là, il nous a sorti vraiment plusieurs gros matchs au scoring avec des pourcentages à 3 points complètement hallucinants. Et le cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire, c'est vraiment, il s'améliore un peu en défense. Bon, c'est pas Klay Thompson encore, hein, c'est pas un 3&D élite. Mais punaise, il a vraiment des bons passages en défense, où il est capable de tenir son joueur vraiment beaucoup plus que les années précédentes. Et à côté de ça, voilà, il court dans tous les sens, il cherche son spot à 3 points, il ne prend pas un seul tir. Il doit peut-être mettre 1 ou 2 lay-ups par match maximum, mais tous ses tirs sont de l'extérieur et il se trouve bien avec Holmes sur pick and roll. Voilà, on lui pose l'écran, il tire directement, parce qu'il a un tir vraiment, il dégaine hyper rapidement, donc vraiment, pour tirer en sortie d'écran, c'est idéal. Donc voilà, j'adore ce Buddy sur ce début de saison. C'est voilà, il dribble moins, il prend plus de 3 points et il s'applique en défense.
C'est le Buddy Hield qu'on aime. Voilà, on n'a pas toujours été tendre avec lui. Je repense à la vidéo qu'on avait fait avec Bastien Trash Talk parlant d'Haliburton et plus globalement de l'effectif des Kings, où on disait que limite on espérait un trade de Buddy Hield. Et là, sur ce début de saison, chapeau l'artiste, quoi. Nos plus plates excuses. Anti-basketic sera content parce qu'il a, il faut l'avouer, le défend corps et âme. Mais ce Buddy-là, c'est un des meilleurs dans son domaine, clairement. Un des meilleurs. Quand il ne force pas son jeu, quand il n'essaie pas d'être un playmaker, et ça m'a fait rire parce qu'on l'a vu 2-3 fois essayer de partir en dribble contre Phoenix Une fois, il dribble sur le pied et deux fois, ça part un peu en cacahuète. Voilà, son boulot, lui, c'est de se créer ses shoots, se créer ses spots. Et on va peut-être revenir dessus après. Est-ce que Luke Walton n'a pas enfin trouvé la recette pour pouvoir se servir au mieux de Buddy Hield? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plutôt que lui donner un rôle qui n'est pas forcément le sien, là, avec un line-up de trois guards, il a clairement son rôle et son aspect le mieux représentatif de Buddy Hield, c'est-à-dire du shoot à trois points. Mais après, ça fait rire quand tu regardes les matchs, la manière dont il fait tout et il court pendant 23 secondes pour aller chercher son spot. Il court partout, le mec. Parce que aussi, Buddy Hield, je crois que c'était les dernières où il y a deux ans, c'était un des joueurs qui courait le plus dans la NBA parce qu'il a un coffre incroyable. Tu le vois, hein, le mec, il s'entraîne tout le temps. C'est un mec hyper sérieux vis-à-vis de sa propre hygiène de vie et de son éthique de travail. Il a un coffre de fou. Donc, le mec, il peut courir pendant 48 minutes, aller chercher ses spots. Et comme tu dis, il progresse en défense. Et le plus appréciable, c'est qu'on ne l'entend pas.
Bon, ouais.
Et il sort du banc. Il sort du banc. Il sait qu'en sortant de banc, il peut prendre tous les tickets shoot qu'il veut. Je pense que ça a été aussi une discussion avec Luke Walton et son staff qui fait qu'on lui a dit, vas-y, bah, tu rentres, carte blanche, fais-toi plaisir. Donc, c'est peut-être aussi tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il a accepté son rôle, qu'il prend toujours autant de shoot à trois points, hein, il en prend 10-12 par match, et qu'il est diablement efficace. Et heureusement qu'il est là sur certains matchs pour pouvoir soit nous ramener dans des matchs où dans le troisième quart ou le quatrième quart, on se fait systématiquement rattraper quand on est devant, ou comme on a pu le voir contre Phoenix, il a toujours un shoot bien placé qui nous ramène ou qui signe une révolte pour pouvoir revenir. Donc, ce Buddy Hield là, moi, je kiffe. J'ai ressorti son maillot, je suis fier de le mettre. Je suis très content, je l'avais un peu planqué parce que bah, ces deux dernières années m'ont rendu dingue. Et là, il a accepté son rôle, il a accepté d'être derrière Haliburton dans la hiérarchie. Et ça se passe très bien, autant pour Haliburton que pour Buddy Hield.
C'est vraiment ça, c'est ce que tu dis, cette acceptation de son rôle cette année qui me fait le plus plaisir et qui, je pense, fait vraiment la différence. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été au niveau du coaching staff pour qu'il arrive en fait à embrasser pleinement ce rôle de sixième homme. Mais en fait, on a l'impression qu'il arrive plus mûri, qu'il se dit, on lui a dit, voilà, ton rôle, c'est sixième homme, tu rentres, tu tires à volonté et c'est tout. Et si jamais tu es dans le 5, tu dois avoir des capacités de création, tu n'es pas très bon, voilà. Et donc, du coup, tu le mets en sixième homme. Il a clairement, de toute façon, des minutes de titulaire, hein, puisqu'il fait plus de... Je n'ai pas les stats, mais voilà, il fait quasiment 30 minutes par match. Donc, c'est ça, c'est vraiment cette acceptation de ce rôle, je pense, qui fait une différence.
Et là, on peut le voir. Malheureusement, Haliburton est blessé. Je ne sais plus combien il met là, contre les Suns. Je crois qu'il est autour de 20, de mémoire.
Ouais.
Là, on va le voir encore cette nuit face aux Spurs. Il sera dans le 5 et il aura toujours ses tickets shoot. Et le jeu sera, je ne vais pas dire fait pour lui, parce que ce n'est pas le cas. C'est lui, comme je disais, qui va chercher ses propres shoots, à courir un peu partout pour pouvoir se démarquer. Voilà, c'est le Buddy Hield qu'on aime, c'est le Buddy Hield qu'on veut et c'est le Buddy Hield. Au-delà de nous, les fans à Sacramento avaient été très, très durs avec lui. Et on a pu le voir, là, le dernier match, je ne sais plus c'était contre qui, bah, peut-être contre Charlotte, hein, où ça criait Buddy Buckets, quoi. Donc, on peut parler d'un retournement de veste vis-à-vis des fans, mais qui est engendré par un Buddy Hield discret qui ne se plaint pas, qui accepte son rôle et qui est méga performant.
Il y a un autre gars qui est discret, qui accepte bien son rôle et qui a bien perfé en ce début de saison, c'est également Richaun Holmes, qui a tout juste signé son nouveau contrat de 4 ans. On en revient d'ailleurs, chaque fois on en parle sur Twitter, on n'en revient toujours pas qu'on ait un joueur avec un tel rendement, un si petit salaire. Mais voilà, là, lui, c'est pareil, c'est vraiment le joueur typiquement, il adore Sacramento, il adore être là, il se donne à fond tous les soirs. Et vraiment, il a fait un très bon début de saison. Il est... Si on prend le player efficiency rating, qui est un indicateur qui indique l'efficacité des joueurs qui combinent plein de stats, il est dans le top de la ligue. Je crois qu'au dernier match, il était 8e de NBA au player efficiency rating, donc vraiment qui donne vraiment la mesure de ce qu'il apporte sur le terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Il a réussi un énorme match contre les Hornets où il sort son premier son premier 20-20 en carrière et le premier 20-20 à 75% depuis Holden Polynice en 94, ce qui est quand même pas négligeable. Donc voilà, malheureusement, il y a des matchs où il arrive un peu moins à exister parce qu'il fait des petites fautes bêtes. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore assez de maturité en défense pour ne pas sauter sur tout. Il a cette énergie débordante qui fait un peu ses faiblesses parfois. Mais voilà, vraiment, il faut vraiment apprécier l'apport de ce joueur sur ce début de saison quoi, parce qu'il a vraiment été essentiel.
Il faut aussi souligner son duo avec Haliburton. Parce que Haliburton le fait bien briller. Je ne sais plus contre qui c'était, je crois que c'était le Jazz, où sur les 8 passes d'aise d'Haliburton dans ce match, il y en a 5 pour Holmes. Ils ont réussi à créer ce lien qui permet que le meneur ou le poste 2 arrive à le faire briller. Après, ouais, comme tu dis, il a encore cet excès de... Je ne saurais pas comment le nommer... qui fait que ouais, il saute sur tout et qui prend des fautes malheureusement bêtes. Il a été expulsé aussi pour 6 fautes dans un match contre le Jazz, peut-être de mémoire. J'ai très mauvaise mémoire, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, Holmes à 46 sur 4 qui sort des stats comme ça. Même si, bon, les Hornets, certains ont dit et diront qu'en face, dans la raquette, c'est pas extraordinaire, hein, Mason Plumlee. Mais voilà, c'est un mec, comme tu dis, il adore Sacramento. Sacramento le lui rend bien. Et il est à 100% de ses capacités. Donc ouais, il y a des soirs où il va galérer. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a ce petit débat qui met derrière lui entre Lane et Thompson. Mais là, aujourd'hui, tu fais le 5. C'est un verrou, c'est un lock, comme diraient les potes de Trash Talk quand ils font un 5 majeur. C'est clairement un lock. Fox, Barnes, Holmes. Après, ça peut débattre sur les deux derniers, si tu mets Buddy en 2 et le poste 4. Mais Holmes, aujourd'hui, et le lock est un ciment de l'équipe. Même si, encore une fois, il a encore des améliorations, et ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Holmes. Même si Len et Thompson, chacun dans leur registre, font un bon taf, ils n'auront jamais le rendement de Richaun Holmes.
Ouais, justement, tu mentionnes Len et Thompson qui sont... je trouve plutôt complémentaire en fait de Richaun Holmes sur le terrain, parce qu'on a vu, ça nous a un peu surpris d'ailleurs, que Alex Len était un peu passé devant Tristan Thompson dans la rotation, que c'était Alex Len qui allait au charbon en deuxième pivot derrière Richaun Holmes, qui faisait plutôt un bon taf. Alors du coup, il n'est pas du tout dans le même registre, c'est pas un immense scoreur, c'est pas un mec hyper athlétique, mais voilà, il va rentrer, il va mettre des coups, il va bien défendre, il va faire des bons écrans. Donc voilà, c'est un gars pareil qui a bien accepté son rôle et qui arrive et qui fait le taf derrière Holmes, qui est dans un registre pas du tout le même. Et voilà, lui aussi, c'est vraiment appréciable son début de saison, quoi.
Après, Len, lui, avait dit qu'il n'avait jamais voulu quitter Sacramento à la fin de son premier passage. Ouais. Donc c'est dire que le mec aime cette équipe. Après, je ne pense pas que ce soit une question de hiérarchie. Ça, c'est ma vision des choses. Sur les matchs qu'on a pu voir, je pense que Thompson est plus envoyé sur le terrain face à des pivots plus mobiles. On a pu le voir Dallas avec Kleber, enfin, voilà, des pivots qui bougent un peu plus. Len est envoyé au charbon sur les baobabs, sur Gobert, sur Ayton, des mecs qui ne s'écartent pas et qui n'ont pas forcément ce côté athlétique ou rapide que peuvent avoir d'autres pivots. Je pense que c'est plus ça. Je ne pense pas que ce soit une question de hiérarchie, je pense que c'est une question justement de complémentarité entre les deux pivots. Il y a des matchs comme Dallas où Thompson a plus joué et a été bon, hein. Il avait fait un très bon match, je crois qu'il était en 13-8 de mémoire, un truc comme ça. Et là, ce soir contre les Spurs, je crois que Potel est blessé, donc je ne connais pas trop leur effectif. Et selon l'adversaire et le profil du pivot adverse, on pourrait voir pourquoi pas Thompson jouer plus que Alex Len. Et ce ne serait pas choquant parce que, et c'est un peu l'apport de Tristan Thompson, il arrive à cimenter ce groupe. Il est arrivé, il met une ambiance incroyable. Il a aussi la stature d'ancien champion NBA. Le mec qui a joué avec LeBron, il était dans le retour du 3-1. C'est un mec qui a une certaine expérience et on peut voir que tout le monde l'apprécie. Donc même sur les matchs où il ne joue pas beaucoup, il est là, il encourage, il prend les jeunes sous son aile. Donc, je pense que on était un peu surpris de voir arriver Thompson, sachant qu'on avait signé Alex Len. Mais finalement, pour moi, au-delà du terrain, c'est une super signature.
Ah oui, c'est clair, oui, pour des raisons qu'on ne va pas reprendre, mais que tu as excellemment bien dit juste avant. C'est, voilà, c'est un gars qui, lui aussi, pareil, comme Alex Len, qui va pleinement accepter son rôle, qui les soirs, il ne va pas jouer, ben, il va pas mal le prendre. Voilà, c'est un vétéran, il connaît son rôle, il sait pourquoi il joue et pourquoi il ne joue pas. Donc voilà, on l'a vu. Et puis, on est en train quand même d'insinuer que Luke Walton est capable de s'adapter au match-up. Qui fait des ajustements. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose d'assez inédit, où on avait les saisons précédentes, il avait plutôt tendance à s'entêter sur des trucs, même quand ça ne marchait pas. Et là, on voit que selon les matchs, il envoie soit Len, soit Thompson, qu'il utilise des différents line-up. Donc voilà, c'est aussi un point positif qu'il faut souligner sur ce début de saison, c'est qu'il ne sera pas coach de l'année. Hein. Mais voilà, il y a cette capacité à s'ajuster maintenant qu'il a une vraie profondeur de banc sur quasiment tous les postes.
Effectivement, tu parlais de profondeur de banc, mais il faudra aussi parler, je pense qu'on va aborder le sujet dans les points négatifs. On peut avoir une profondeur de banc, mais on a une rotation à 7,5-8, sachant que malheureusement, je m'en plains parce que je l'avais annoncé peut-être dans la course du 6e homme, Terrence Davis est aux abonnés absents.
Oui, complètement. Oui, il a eu moins de temps de jeu qu'en pré-saison aussi, mais sur les quelques choses qu'il a montré en début de saison, c'était pas génial au niveau du scoring, à part sur ce dernier match contre Phoenix où en l'absence d'Haliburton, il a plutôt été intéressant. Mais voilà, du coup, dans la course au cinéma, aujourd'hui, si on doit choisir un aux Kings, on est plutôt Buddy Hield, hein, puisqu'il est c'est le deuxième meilleur scoreur de NBA en sortie de banc, avec aux alentours de 18 points par match. Et devant lui, t'as que Tyler Herro du Heat, quoi. Donc voilà, on a de vraies raisons d'être un peu optimiste pour la suite de la saison, si tout le monde garde ce rendement et si Fox arrive un peu à... Si Fox arrive à revenir un petit peu. Puis un autre point positif que j'aimerais souligner, on en a beaucoup parlé en Summer League, en pré-saison, mais on aime bien un peu forcer avec, mais Devion Mitchell quand même, putain. Hein, la maturité de ce gars, on a eu Haliburton l'année dernière qui est arrivé avec un bagage immense et qui a apporté tout de suite. Et en fait, Devion Mitchell, c'est la même chose. Parmi les meilleurs guards de NBA sur son début de saison, avec Lillard, avec Curry, avec Devin Booker, avec Donovan Mitchell. Et vraiment, il n'a pas peur, quoi. Il va au charbon, il défend dessus tous les soirs. Il a encore un peu de mal avec son tir, mais voilà, il est vraiment prêt, quoi.
Ouais, et on nous reprochera encore une fois d'avoir tiré la tronche lors de la draft. Après, encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, et c'est un peu ce qu'on avait fait avec Marvin Bagley. Si on rouspète, ce n'est pas contre les joueurs en eux-mêmes, c'est contre la cohérence. Et tu as très bien fait le tweet là, récapitulatif pardon, de McNair, disant que lui, il voulait le meilleur joueur disponible. On sait qu'on voulait Wagner en 9, qui est parti en 8. Donc, ça a été Donovan Mitchell. On a été surpris parce qu'il est passé sous les radars en termes d'insider, en termes même de prédiction. Et ouais... Oh, je le regarde, j'ai mal au genou. Le mec, il est incroyable, il va au charbon, il s'en fout, il tient. Moi, l'aspect qui me rend le plus fou, c'est qu'il tient sur ses appuis. Malgré les changements d'appui, les changements de direction, le mec, il ne bouge pas. Il a des cuisses à la Roberto Carlos. Le mec ne bouge pas. Après, il est prêt, oui, il a 23 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il a le même âge que De'Aaron Fox. Donc, peut-être aussi que dans la maturité, il est peut-être plus avancé que les joueurs de son âge. Mais ouais, c'est... Un rookie en 9, on va peut-être pas parler de style cette saison, peut-être comparé à Tyrese Haliburton la saison dernière, mais pour moi, je le considère comme un style parce qu'il a amené un gros plus dans un secteur où on a été une des plus vilaines franchises de l'histoire la saison dernière, c'est-à-dire la défense. Le mec, et comme tu as très bien dit, il est parti au charbon face à... Il commence le premier match, il a Lillard, McCollum. Ensuite, il enchaîne. Il a Chris Paul, Devin Booker. Il a Stephen Curry. Stephen Curry qui a fait un bon match, mais avec des pourcentages un peu aléatoires. On a pu le voir sur son dernier match qu'il en met 50. Et Stephen Curry a eu, et il avait d'ailleurs été bon offensivement contre les Warriors. Et Stephen Curry avait eu de très jolis compliments à son égard. Donc, c'est un mec, il n'a pas peur, il s'en fout. Il s'en fout. Et on a fait un petit step-up en termes de défense. Mais ouais, tu sais que sur la seconde unit, et je pense qu'il va gagner ces minutes comme ça un peu plus largement et qu'il pourra finir selon les matchs, il pourra finir certains matchs. Mais ouais, il est incroyable. Encore une fois, oui, il a des passages difficiles sur son shoot, mais il bosse. On peut voir des vidéos où avant le match, il bosse, après le match, il bosse. Haliburton a fait pareil la saison dernière et on voit les améliorations cette année au niveau de son shoot. Donc, je ne suis pas inquiet. Mais après, la qualité première de Davion Mitchell, on ne lui demandera pas de devenir Buddy Hield. On va lui demander de faire ce qu'il fait excellemment bien, c'est-à-dire d'essayer, parce qu'il y a des joueurs que tu n'arriveras pas à défendre, à essayer de limiter l'apport offensif des plus grosses stars de la Ligue.
Ouais, et ça justement, il a très bien fait. J'ai quelques stats un peu à l'appui. Par exemple, allez, on va envoyer Devin Booker face à Mitchell, 3 sur 7. Damian Lillard face à Mitchell, 1 sur 7. Devonte Graham, 2 sur 5. Jordan Clarkson, 2 sur 10. Donovan Mitchell en 2 matchs, 8 sur 15. Donc voilà, il n'arrivera pas évidemment à éteindre tous les joueurs. Faut pas non plus se faire des illusions. Mais voilà, cette capacité à ralentir son joueur, comme tu l'as dit, avec ses appuis de malade mental, à tenir son gars, vraiment, l'anticipation des changements de direction, arriver à suivre son joueur malgré sa rapidité, son premier pas et tout, c'est juste une dinguerie. Donc vraiment, il arrive à faire chier beaucoup de joueurs. C'est vraiment très appréciable. Et en plus, voilà, on peut l'associer en sortie de banc à Buddy Hield. Donc voilà, c'est plutôt complémentaire. Il est capable de faire des petites choses balle en main, à trouver des bonnes connexions. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment satisfait de son début de saison. On va passer tout de suite au point négatif de ce début de saison. Alors, parmi les points négatifs, le principal, on en a un petit peu parlé juste avant, c'est les débuts un petit peu compliqués de notre franchise player De'Aaron Fox, qui n'a pas encore trouvé son rythme à l'image d'autres guards. Hein, donc, c'est pas dramatique non plus. On a vu des joueurs comme Lillard, comme Harden, comme Booker, qui ont eu des débuts plutôt difficiles cette saison. Luke Walton, en conférence de presse, après chaque match, il assure qu'il n'est pas inquiet, qu'il n'est pas ceci, cela. Mais voilà, nous, on a quand même passé aujourd'hui le cap des 10 matchs. Qu'on peut considérer comme bon, il a dû en faire 2. Donc, à un moment, ça va être vraiment compliqué de se passer de l'apport de Fox, même si Barnes garde ce rendement offensif.
Disons qu'à l'heure actuelle, on ne le souligne pas trop parce que les résultats sont bons. Et je commence à me dire que l'équipe est peut-être en sur-régime. Donc, ça ne se voit pas trop. Maintenant, effectivement, si là, sur les 4 matchs qui arrivent, là, Spurs, Pistons, Thunder et le quatrième, j'oublie qui c'est, Wolves, si là, on perd les 4 avec un Fox inexistant, là, ça va commencer à vraiment poser problème. Et on en a parlé là puisqu'on regardait le match contre les Suns, je pense vraiment qu'il y a un problème avec son épaule. Je le pense vraiment. Je ne dis pas que peut-être par rapport à la manchette qu'il avait prise par Gobert involontairement avant de prendre des coups de fourche par les fans des Jazz. Je pense qu'il y a un problème parce qu'on peut voir sur le match des Suns qu'il y a peut-être 8 ou 9 actions où il peut aller au panier, qu'il irait au panier en temps normal, mais que là, il commence un drive et il se rétracte. Il revient en arrière pour lâcher la balle à Haliburton ou Buddy Hield. Donc, je pense qu'il y a un truc à l'épaule. Voilà, ça n'a pas communiqué dessus, mais je ne sais pas, je sens qu'il y a un truc. Peut-être que je me trompe, et j'espère ne pas me tromper, parce que ce n'est pas ça, se dire qu'il a un peu perdu son basket. Mais voilà, je le sens comme ça. Après, bon, depuis le début de saison, il y a les débats avec les nouveaux ballons. Est-ce que peut-être il est concerné? Comme tu as pu le dire, tu as nombreux guards qui galèrent un peu. La liste que tu as citée, je crois que Tatum aussi en termes de pourcentage, c'est pas la fête. Peut-être que ça joue, peut-être que non. Peut-être que sa prise de masse qu'il a eue là cet été où il prend 5 ou 6 kilos de muscles, Peut-être que ça le fait jouer différemment. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est bizarre vraiment de voir sa saison dernière et de le voir démarrer vraiment timidement avec des pourcentages dégueulasses au tir. Encore une fois, là, on est à 5-6 après 11 matchs. Ce n'est pas grave. Si les 10 prochains matchs, on est à 1-9 et qu'encore une fois, il est transparent comme ça, sachant qu'Haliburton, pour l'instant, est blessé, on n'a pas de durée. Ouais, je pense que vraiment, il y aura de quoi s'inquiéter.
Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur la théorie de la blessure, en fait. Enfin, de la blessure, si ce n'est de la gêne plutôt, où vraiment, on sent qu'il ose moins aller au cercle. Et même quand il va au cercle, on voit qu'il est moins à l'aise, il est beaucoup moins efficace à la finition. Moi, j'ai vu certains matchs où il y a des drives, normalement, il rate pas ça. Normalement, ça, c'est du 100%. Et là, il rate, ou il lâche un vieux layup, ou il se retient un petit peu avant la finition, et du coup, il se rate. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a un petit souci au niveau de son épaule. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que niveau communication, il n'y a rien dessus. Et on continue à parler de struggle, de juste de difficultés, en fait, purement dans le jeu. Il y a peut-être un aspect, on veut protéger notre joueur. Il a juste des débuts difficiles. En attendant, on soigne un peu son épaule comme on peut. Et puis voilà. Mais j'ai l'impression que je le sens un petit peu limité, quoi, que ce soit sur son tir ou quand il tombe, il met un peu plus de temps à se relever, ou tu vois, des trucs, des indices comme ça qui font que on peut sentir qu'il est peut-être un peu en dessous physiquement. Donc on espère que ça va revenir et que son gros temps de jeu va pas l'empêcher de revenir correctement. Parce que tu l'as dit, ses pourcentages pour l'instant, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est 40% au tir, c'est même pas 20% à 3 points. Il a en moyenne 1 sur 5 ou 6 par match. Il y a des matchs où il en tente moins. Maintenant, il a compris. Mais voilà, il arrive quand même, pour souligner un petit peu son côté, un côté positif du début de saison de Fox, il arrive quand même à faire vivre les autres. Il n'a pas perdu ses capacités de playmaker. Il distribue quand même pas mal de ballons. Il est à 6 à 6 de moyenne. Il a fait quelques matchs à 8 ou 9 passes. Donc voilà. Il a conscience qu'il a cette difficulté au shoot en ce début de saison et il arrive quand même à faire vivre ses partenaires, ce qui est plutôt positif. Et après, on espère, voilà, comme tu l'as dit, que sur les matchs qui arrivent, qui sur le papier sont plus prenables, hein, pas de no offense à tous les fans des équipes que tu as citées, mais voilà, sur le papier, statistiquement, normalement, c'est des matchs qu'on peut prendre. Donc on espère le voir revenir sur ces matchs-là, se mettre en route tout doucement.
Au-delà de prendre ses matchs, il doit se rassurer sur ses matchs. Même si, par exemple, un Murray des Spurs, c'est un bon défenseur, il doit se rassurer sur ses matchs. Haliburton n'est pas là. C'est lui qui aura totalement la mène, parce qu'on a pu le voir, même en saison dernière, où quand les deux étaient sur le terrain, c'est plus Haliburton qui avait la mène. Là, on sait que tu ne peux pas forcément filer la mène à Buddy Hield. C'est lui qui va devoir être le patron de la franchise, enfin de l'équipe, même si tu dis que oui, il est à 6, il a 6 à 6 de moyenne. Après, en points, il doit être à quoi? 17-18. Et on est en train de se dire aujourd'hui qu'un joueur à 18 points, bah, il fait un début de saison claqué. C'est-à-dire le statut qu'a pris Fox dans la ligue. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a 18 points, 6 à 6. On dit, oh, le début de saison, c'est difficile. Et c'est le cas. Et donc, sur les 4 prochains matchs, il doit se rassurer, il doit aller au panier, il doit prendre moins de shoot à 3 points, parce que c'est vrai que voir Fox en prendre des fois 7, 8, 9, en mettre un, peut-être que là aussi, il essaie de se rassurer en shootant, en se disant, bon, à un moment donné, ça va rentrer. Mais si au mois de mars, ça ne rentre toujours pas, il va peut-être falloir se poser des questions. Mais voilà, il doit retrouver le mojo, il faut qu'il retrouve son talent qui a été volé par les Monstars. Ainsi que les autres, hein. C'est peut-être pour ça, Space Jam 2, il doit être un peu dedans. Et on a besoin de voir un Fox au top niveau. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une partie de saison où forcément on va connaître des défaites, un enchaînement de défaites, hein. On n'espère pas neuf comme c'est arrivé deux fois la saison dernière. Et c'est dans ces moments-là qu'on aura besoin de notre franchise player qui soit à 100% et qui retrouve une totale confiance en son jeu.
Un autre point négatif à souligner sur ce début de saison, et ça nous a coûté plusieurs matchs, c'est la gestion des dernières minutes, la gestion des fins de match qui était plutôt compliquée. J'ai pu le tweeter, c'est que deux exemples, mais des systèmes en fin de match où on était incapable de s'adapter, où, voilà, où par deux fois on a eu l'occasion d'égaliser et le système part en vrille et résulte soit en un turnover, soit en un mauvais tir. Mais voilà, la gestion des faits de match n'est pas satisfaisante, il y a trop d'erreurs, il y a trop de turnover. Ça n'a pas été le cas sur le dernier match contre les Suns où voilà, on fait un énorme quatrième carton pour revenir dans le match. Mais les autres matchs, vraiment, il faut cette capacité de conclure les matchs en fait, le moment où on mène. Et voilà, il faut se dire, c'est bon, maintenant, on ne laisse plus passer l'adversaire devant. Maintenant, c'est nous les patrons, on gère ça et on va au bout. Et en fait, je ne sais pas si c'est un problème de mentalité ou si c'est la fatigue en fin de match ou s'il y a moins de. Je ne sais pas. Mais voilà, on a vu vraiment que cette gestion de fin de match était plutôt compliquée et elle a pu nous coûter au moins 2-3 matchs, je pense.
Au-delà de la dernière minute, c'est vraiment le money time en entier. Où il y a quelques matchs, on avait des avances confortables, où on a vu revenir les équipes. Et malheureusement, c'est le passif qui fait que psychologiquement, tu es fébrile à ce moment-là. Et tu l'as bien tweeté sur le match contre les Suns. On arrive, et même quand on avait fait le live contre Dallas avec Quentin. On arrive à un point aujourd'hui où nous, fans des Kings, qui suivons l'équipe depuis des années et qui suivons quasiment chaque match, on est capable d'écrire le scénario de la fin de match. Tu vois ce que je veux dire? Contre les Mavs, on savait très bien comment ça allait finir. Et ça s'est fini comme ça. Donc, je pense que c'est psychologique, c'est mental. Ils paniquent. Arrivé le money time, ça revient un peu, ça fait un petit run en face. Et tout le monde perd ses moyens. Et justement, on avait l'habitude de voir De'Aaron Fox faire des gros money time à une certaine époque. C'était un des joueurs qui scorait le plus dans le money time, dans le quatrième quart-temps. Et là, on ne l'a pas. Donc déjà, ça enlève quelque chose. Et comme tu dis, les dernières possessions. Là, j'avais lu tes tweets contre les Suns. Ah, ça m'a fait mourir de rire. Et contre les Pacers, après, le Walton avait dit qu'à la base, c'était. Même si je n'ai pas compris. Pourquoi il voulait faire une isolation Barnes? Bon, ça c'est un peu bizarre, mais que les Pacers avaient bien défendu, du coup ça avait fini un peu casquette avec ces dernières actions. Mais globalement, ouais, c'est les quatrièmes cartons qui sont pas bons. Enfin, c'est paradoxal. On fait des quatrièmes cartons qui ne sont pas bons quand on mène, et là on a pu voir contre les Suns que quand on est mené, on fait des bons quatrièmes cartons. Où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'à un moment donné, on va réussir à faire juste un bon dernier carton qui nous permet de consolider une victoire sans transpirer? On a pu le voir contre les Hornets, mais bon, contre les Hornets, vu le match qu'on a fait, il était impossible qu'ils reviennent. Toute l'équipe était en feu, record à 3 points, tout ça. Mais dans une fin de match où on mène de 10 points à l'entrée du quatrième carton, on sait très bien qu'on va transpirer du caleçon. Arriver money time et que oui, ça va se jouer sur une dernière possession. C'est le retour des victoires morales. Pour ceux qui ne savent pas, on explique. On galère, on revient, ça se joue à une possession, on perd le match, on est content, on se dit bon, on est bienvenu, on perd sur une possession, c'est dommage. La spécial Kings, voilà. Pour ceux qui peut-être écoutent le podcast ou qui viennent de suivre notre compte, c'est ça, on le sait. On a pu le voir cette saison. On arrive à l'anticiper. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on arrive, nous, à anticiper derrière notre écran de League Pass et Luke Walton n'y arrive pas. Donc, aujourd'hui, on ne va pas remettre en cause Luke Walton. On fait un bon début de saison. Même si je mets un peu plus de crédit sur l'arrivée de Christie. Mais à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on arrive à anticiper ces putains de fin de match et qu'il se passe toujours le même scénario? Tu vois ce que je veux dire?
C'est des choses voilà, qu'il va falloir vraiment corriger. On parlait tout à l'heure des ajustements qui étaient faits par Walton et qui étaient plutôt intéressants au niveau de certaines rotations. Là, sur les fins de match, il y a encore vraiment du boulot à faire, comme tu l'as dit. On le voit derrière notre écran. Pourquoi lui, il ne le voit pas? C'est quelque chose qui rend plutôt dingue. Mais je pense qu'il y a un bon élément, c'est de voir que Davion Mitchell est dans le 5 de fin de match. Donc on se dit, voilà, il faut défendre les dernières possessions parce qu'on n'arrive pas trop à mettre, on n'arrive pas trop à mettre des paniers, donc il faut savoir mettre des mecs qui savent défendre. Donc moi, je suis plutôt content de voir des joueurs comme Devion Mitchell qui ont cette confiance déjà pour pouvoir assurer les fins de match. Après, au niveau de la réussite, j'espère que ça viendra, j'espère qu'on prendra moins de bouillon au point d'être mené de 20 ou 25 points au début du quatrième carton et qu'on arrivera à sécuriser nos victoires une fois que tout le monde sera revenu en pleine forme.
Et je pense que c'est ça qui fera qu'on passera d'une équipe de fond de tableau à une équipe sérieuse, de pouvoir gagner les matchs quand il faut les tuer, d'arrêter d'avoir cette posture de victime à se dire « ouais, bon, on sait comment ça va finir, machin, tout ça », à se dire « bon, on tue le match, on prend la victoire, on sécurise, après, si possible, assez pour pouvoir faire jouer le fond de banc ». Et c'est des victoires qui vont coûter, tu vois. Les Suns, on peut le gagner. Les Pacers, on peut le gagner. Voilà, sur les 10 premiers matchs, il y en a peut-être 2 ou 3 où aujourd'hui, on serait dans un meilleur bilan. Donc, c'est vraiment ça. Arrêter de se comporter en victime dans le Money Time quand on mène, mais plutôt d'être dans l'aspect du tueur, de finir les matchs. Et c'est ce qui fera qu'on sortira de ces 10e place ou aux alentours, de pouvoir d'une, gagner les matchs qu'on doit gagner, chose qu'on ne fait généralement pas, et de pouvoir gérer ces fins matchs difficiles avec un meilleur mindset.
Et on va passer tout de suite aux questions du peuple. Alors, une première question qui est de notre camarade Rémi, qui fait partie de la rédaction de Kings France et qu'on salue au passage. Ailier à la trade deadline, ne serait-il pas une bonne piste pour renforcer notre banc ou notre 5 majeur?
Un ailier, je ne sais pas. Aujourd'hui, avec la défection de Marvin Bagley, je pense qu'il serait préférable de prendre un poste 4. Aujourd'hui, on en a parlé lors du dernier match, moi, Harkless, ça devient chaud.
Ouais, ça, c'est pas ça du tout, quoi. Là,
ça devient chaud. Si tu mets Harkless avec ce rendement, franchement, je préfère voir Marvin Bagley jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense qu'il nous faut un 4. Parce que si on prend un 3, ça ferait passer Barnes au poste 4. Et vu le début de saison qu'il fait à son poste naturel, ça m'ennuierait. Donc, pour ma part, il faudrait peut-être aller chercher un poste 4.
Ouais, je te rejoins complètement. Parce que, en fait, on a Harkless qui apporte en défense et qui apporte rien en attaque. Et puis on a Marvin Bagley qui est exactement l'inverse en fait, qui pourrait apporter en attaque mais qui apporte pas en défense. Donc si on a un ailier à aller chercher, oui, c'est vraiment un poste 4 et un mec on demande pas non plus un Kevin Durant, mais un mec qui sache défendre et qui sache mettre des points, ça doit pouvoir se trouver quand même. Donc voilà, oui, un ailier à la trade deadline, c'est évidemment une bonne piste pour se renforcer parce que là, c'est trop problématique quand on a des joueurs qui ne rentrent pas leur tir et qu'on a Harkless à côté qui a 0 point, qui prend 4 tirs en 2 matchs. Enfin voilà, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un joueur qui a ce rendement-là, même si en défense, il apporte beaucoup.
Sauf que le problème, c'est que si on veut avoir à la trade deadline un bon poste 4, sachant que ni Fox ni Haliburton ne seraient dans les valises, bah, on perderait un des deux meilleurs joueurs du début de saison, voire les deux, c'est-à-dire Buddy Hill ou Harrison Barnes. Donc, aller chercher un poste 4 en perdant Harrison Barnes, je ne suis pas sûr que ce soit rentable.
Non, pas vraiment. Non.
Donc, voilà, à voir, mais évidemment qu'arrivé février, tu auras toujours Marvin Bagley, Harrison Barnes et Buddy Hill qui seront dans toutes les discussions. Et si aujourd'hui, à voir comment ce sera en février, mais aujourd'hui, si tu te passes de Buddy Hill et d'Harrison Barnes, ouais, je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup, beaucoup après ça.
Une question de Tinero, que je salue également, qui est très souvent présent pendant les matchs sur les live tweets à 4h du mat, donc un grand vaillant. À quand le trade impliquant Bagley, vu qu'il est visiblement hors de la rotation, et qu'est-ce qu'on peut viser en échange?
Alors, à l'heure actuelle, Bagley est un joueur hors rotation, est un joueur qui ne joue pas.
Donc, voilà. On l'a vu même, voilà, en fin de match, dans un blowout, il fait jouer Ramsey, il fait jouer Metu, il fait jouer Damian Jones, mais Marvin Bagley ne voit pas la couleur du terrain. Donc là, c'est clair et net qu'on ne compte vraiment plus du tout sur lui, à moins qu'il y ait une avalanche de blessés, quoi.
C'est pour ça. Qu'est-ce que vaut un joueur qui joue pas?
Un second tour de draft.
Ouais, c'est ça.
Parce que on a vu que je crois que s'il ne joue pas un certain nombre de minutes, je crois 2000 minutes cette saison, il y a le prix de sa qualifying offer pour la saison prochaine qui passe de 14 millions à 7 millions. De toute façon, ce qui ne change pas grand-chose dans la mesure où je pense qu'on ne pense pas le prolonger. Mais ouais, c'est compliqué de garder un joueur comme ça qui occupe un spot pour rien, dont tu sais pertinemment que tu ne vas pas te servir. Moi, la solution que je vois aujourd'hui, c'est du tour de draft, quoi. Il n'y a pas un GM qui voudra envoyer un joueur contre Marvin Bagley, à moins un mec qui est l'étincelle, qui voit en Marvin Bagley un joueur avec un énorme potentiel et qui sache comment le développer. Je trouve ça plutôt compliqué. Je pense que voilà, il faut pas compter sur plus qu'un tour de draft ou deux, quoi.
Ou il sera dans un package avec Barnes ou Buddy, voilà. Comme ça avait été évoqué en début de saison. Mais aujourd'hui, ouais, la valeur de Bagley, ça frôle pas grand-chose, quoi.
Puis on va prendre une petite dernière question de notre collègue anti-basketix. Le line-up de Nain est-il viable sur une saison entière ou est-ce qu'il faut casser ce trio pour aller chercher un vrai poste 3? Ça rejoint un petit peu la question qu'on a eue juste avant. Mais sur la première partie de la question, est-ce que le line-up à 3 gardes est viable sur toute une saison?
Tant qu'on n'aura pas trouvé un meilleur poste 4 que moi, Harkless, je pense que ça va rester comme ça. Je pense qu'on a besoin des qualités de défense de Davion Mitchell, les qualités de QI basket et de shoot extérieur de Buddy, d'Haliburton et le côté sniper de Buddy Hield. Avec Barnes, oh, ouais, je pense que ça va durer. Peut-être pas en termes de résultats, mais comme on a déjà dit, on a une rotation à 7, voire 8 avec Len et Thompson. Donc en sortant de banc, il te reste Mitchell, Hield, Davis. Là, et quand il joue, parce que c'est pas souvent ces derniers temps, on a beaucoup de lignes arrière en fait. Donc c'est compliqué, on n'a pas le poste 4, à moins qu'on décale Barnes qu'on joue avec 3 arrière. Donc ça ne sera pas viable, mais tant qu'on n'aura pas un vrai 4 qui puisse faire le boulot plus qu'un Harkless, je pense que cette configuration restera comme ça.
Oui, c'est clair. Là, pour l'instant, c'est plus une question dont on n'a pas on peut pas faire autrement en fait. C'est-à-dire que voilà, on a des joueurs talentueux sur nos lignes arrière, on est un peu dégarni à l'aile. Donc c'est compliqué de faire autrement qu'en faisant jouer du three guard line-up. En fait, ça m'a moins choqué dans ce début de saison que ça l'avait fait en pré-saison où on avait envoyé Davion Mitchell défendre sur Carmelo Anthony. Et là, je me suis dit, bon, il défend bien Davion Mitchell, il est gentil, mais quand il va devoir se taper des ailiers comme ça, il ne pourra pas défendre. Mais j'ai moins vu ce gap en fait, sur les premiers matchs de la saison, donc ça m'a moins dérangé. Quant à la question de est-ce qu'on doit casser le trio pour aller chercher un poste 3 ou 4, ben, on serait probablement obligé parce qu'aujourd'hui, c'est Haliburton, Davion, Buddy, c'est les joueurs qui ont le plus de valeur en fait, dans notre effectif, hors Harrison Barnes et Richon Holmes, qui je pense n'est pas tradable. Mais voilà, si on veut aller chercher un ailier, je pense qu'il faudra forcément, il faudra forcément qu'on tape dans ses arrières. Ça me ferait un peu de peine parce qu'on les aime tous, mais on sait que pour passer un palier, voilà, il va nous falloir plus de profondeur à l'aile. Parce que si Harkless continue avec ce rendement, on va avoir quelques soucis.
Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au poste 3, on a Harrison Barnes, Louis King. Au poste 4, on a Harkless, Marvin Bagley, Shimezi Metu. Donc ouais, au niveau de la viabilité de la ligne arrière, je pense que c'est un peu par dépit et défaut qu'on est obligé de faire jouer beaucoup ces joueurs. Parce que derrière Barnes, on est à poil. Derrière Harkless, même devant Harkless, on est à poil. Donc, c'est un peu complexe. Et c'est là tout l'intérêt qu'il avait pu avoir sur les rumeurs Ben Simmons qui, après avoir dit qu'il ne serait pas dérangé de venir à Sacramento... Mais là, il a dit la même chose pour Boston et je pense qu'il va dire ça pour toutes les équipes qui potentiellement pourraient le vouloir, de faire basculer Ben Simmons au poste 4 et pas en meneur. Parce que sur ces postes-là, on est vraiment à poil. Donc oui, on a un... l'effectif a été fait qu'on ait un meilleur banc que la saison dernière, mais malheureusement, le poste 3, on est à poil. Je crois que depuis qu'on a créé notre compte, là, ça, c'est peut-être la cinquième saison, bah, ça fait la cinquième saison qu'on est à poil. On a eu des Justin Jackson, Vince Carter. Heureusement qu'il y a Harrison Barnes qui est arrivé, mais ça reste toujours un peu compliqué à ces postes-là. Donc ouais, je pense que... est-ce qu'il faudra casser ce trio ? Oui. Qui partira ? Sachant que McNair a dit qu'Haliburton et Fox ne bougeraient pas. Donc forcément, je préférais peut-être, même si ça m'ennuierait vu son début de saison, envoyer Buddy ailleurs parce que sa valeur remonte en flèche et qu'il a 28, 29, 30 ans selon, selon les sources des hôpitaux de son bled respectif, de son bled natal, pardon. Je préférais me séparer d'un Buddy pour pouvoir avoir un bon poste 3-4 plutôt que me séparer d'Haliburton et de Mitchell qui sont sophomores et rookies et qui ont encore une très belle marge de progression.
Et on arrive à la fin de ce troisième épisode du Sacramento Talk. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à tous.
Et ciao, merci de nous avoir écoutés.